Premier journal donc avec vous Claire, bonjour.
Bonjour.
L'Italie au bord du chaos politique, le gouvernement affronte dans les prochaines heures un vote de confiance.
Oui, en cas d'échec, il faudra trouver une nouvelle coalition et certainement en passer par la case élection, car l'ancien patron de la BCE menace de jeter l'éponge s'il n'est pas soutenu par une majorité solide. Notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
C'est un vote crucial, celui de ce mercredi au Parlement italien. Si le gouvernement dirigé par Mario Draghi n'obtient pas une majorité solide, l'ancien patron de la BCE pourrait présenter sa démission au président italien Sergio Mattarella. C'est ce qu'il avait déjà fait jeudi dernier. Le président italien avait alors refusé sa démission. Il lui a aussi demandé de consulter le Parlement pour confirmer s'il dispose ou pas d'une majorité stable. Aujourd'hui, les yeux du pays sont rivés sur le choix que feront les parlementaires du mouvement 5 étoiles. Ce sont eux qui, jeudi dernier, avaient refusé le soutien à Mario Draghi lors d'un vote de confiance. Mais il faudra aussi voir le comportement de la droite qui, maintenant, se refuse à continuer de gouverner aux côtés du mouvement 5 étoiles. Pour le pays, cette crise intervient au pire moment avec la pandémie encore en cours, la guerre en Ukraine, l'inflation et le spectre d'une crise énergétique cet automne. Si le vote de ce mercredi n'est pas favorable au gouvernement, c'est le président italien Sergio Mattarella qui décidera la suite. Il pourrait nommer un nouveau premier ministre ou dissoudre le Parlement pour convoquer des élections anticipées ici en Italie.
Mario Draghi qui joue son avenir politique mais aussi la stabilité du pays.
Claire. Oui, l'économie italienne est fragile avec une des dettes les plus élevées d'Europe alors que les taux remontent. Bonjour Aude Kersulek, on vous retrouve en direct depuis le siège d'Euronext.
Bonjour.
À la Défense. Il y a inquiétude sur les marchés et plus largement au sein de la zone euro pour le financement de la dette italienne.
Eh oui, parce qu'en Italie, il y a le risque évidemment de chahut politique, mais il y a aussi la dépendance au gaz qui compte beaucoup, ou le fort endettement avec 150% de dette. C'est le niveau le plus élevé après la Grèce. Alors si Mario Draghi est apprécié des investisseurs, c'est qu'il comptait mettre en place des réformes pour débloquer aussi les fonds européens du plan de relance. S'il part, c'est une autre histoire. Ça devient beaucoup plus risqué pour l'Italie, d'où les taux d'endettement qui pourraient s'emballer. Alors le taux italien, le BTP à 10 ans s'affiche ce matin à 3,3%. À l'arrivée de Mario Draghi, il était à 0,5%. Alors évidemment, il y a eu un mouvement de remontée générale des taux en Europe. Donc on surveille l'écart avec le taux allemand, le spread. Le plus haut niveau de spread ces dernières années, il a été atteint le mois dernier, 245 points de base, 2,45%. C'était lors de la dernière réunion de la BCE en juin, lorsque la Banque centrale a annoncé qu'elle arrêtait le soutien monétaire. Il y a évidemment une nouvelle réunion de la BCE demain. Les investisseurs en attendent plus aussi sur cet outil anti-fragmentation qui doit justement faire redescendre les taux de dette des États périphériques s'ils sont mis sous pression. Si Mario Draghi part, eh bien l'Italie aura bien besoin de ce nouvel outil. Ce sera un test grandeur nature pour la BCE.
Merci beaucoup, Aude Kersulek. On reviendra sur le dossier italien tout à l'heure à 7h45 avec l'économiste Véronique Riche-Flores. On verra effectivement quel est l'état de la menace pour l'ensemble de la zone euro.
Et demain après-midi, la Banque Centrale Européenne se réunit. Elle a l'intention de remonter ses taux. Et nous serons en édition spéciale sur BFM Business dès 14h avec Cédric Decoeur.
L'Europe se prépare à une éventuelle coupure de la fourniture de gaz russe.
Oui, anticiper un scénario du pire cet hiver. La Commission Européenne a mis sur pied un plan d'urgence en cas de pénurie. Bonjour Nathan Cocampo.
Bonjour.
Des restrictions concerneraient tout le monde.
Oui, Bruxelles demande aux États d'adopter des restrictions de chauffage et de climatisation dans les bâtiments publics. Limiter le chauffage à 19 degrés, pas de climatisation en dessous de 25 degrés. Les 27 ont quelques jours pour faire connaître les mesures qu'ils prendront pour réduire la consommation européenne de gaz. Objectif, moins 25 à 60 milliards de mètres cubes consommés. Si on prend juste la réduction du chauffage dans les bâtiments, cela permettrait d'économiser 11 milliards de mètres cubes. Ces propositions seront discutées lors d'une réunion des ministres européens de l'énergie le 26 juillet.
Et concrètement, Nathan, plusieurs pays ont déjà annoncé des mesures pour tenter de faire baisser la consommation de gaz.
L'Allemagne prévoit un plan d'économie, plus de chauffage au-dessus de 20 degrés l'hiver, plus d'eau chaude dans les bureaux individuels et des efforts sur la climatisation. L'Italie veut faire voter une loi obligeant de régler l'air conditionné entre 25 et 27 degrés maximum l'été et les radiateurs à 21 degrés maximum cet hiver. En France, lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a invité les Français et les entreprises à moins consommer. Un plan sera présenté fin septembre. Objectif, réduire de 10% notre consommation énergétique d'ici 2024 par rapport à 2019. Les pistes, éteindre l'éclairage la nuit dans les bureaux, les vitrines de magasins, rénover les bâtiments et baisser la vitesse des voitures de société sur les autoroutes. Mais on le sait, dans certains pays, ces pistes-là risquent de ne pas suffire en cas de pénurie. Là, les centrales à charbon risquent de tourner à plein régime. L'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche ont d'ores et déjà annoncé que les fermetures programmées pour réduire les émissions de CO2 sont remises en cause.
Merci beaucoup Nathan. On répondra à toutes les questions dans quelques instants avec notre invité. Est-ce que l'Europe a la capacité de s'approvisionner ailleurs et de compenser le gaz russe en cas de rupture des approvisionnements? Rendez-vous donc avec notre invité juste après ce journal.
Gazprom va répondre pleinement à ses obligations en matière d'exportation, affirme Vladimir Poutine. Le président russe, qui était en visite à Téhéran, s'est exprimé devant les journalistes. Il a affirmé que le géant énergétique russe n'était pas à blâmer pour la diminution des flux de gaz. Les livraisons via Nord Stream 1 doivent reprendre jeudi à l'issue des opérations de maintenance. Michel-Édouard Leclerc a-t-il eu tort d'accuser des industriels de l'agroalimentaire dénonçant des hausses de tarifs suspectes? La Commission des affaires économiques du Sénat a mené l'enquête. Ils ont entendu des dizaines de personnes, des distributeurs, des responsables du monde agricole associatif, politique et membres de la DGCCRF. Verdict, l'explosion des coûts de production justifie l'essentiel des demandes, conclut le rapport.
Des offres de travail non pourvues, des candidats inexistants et si le recrutement devenait une mission impossible.
Claire. Les difficultés s'aggravent, en particulier pour les petites entreprises. La quasi-totalité des PME n'arrive pas à trouver le bon profil selon une enquête de la CPME. Explication Raphaël Couder.
C'est une situation complètement inédite pour les petites et moyennes entreprises. Plus de la moitié d'entre elles cherchent à recruter, mais elles sont 94% à rencontrer des difficultés pour trouver cette main-d'œuvre. Deux causes principales, d'abord l'absence de candidats aux postes recherchés et lorsqu'il y en a, le manque de compétences des postulants. Des difficultés qui s'expliquent par la forte reprise de l'économie après la récession de 2020, mais aussi par certaines lacunes structurelles du marché du travail, explique François Asselin, le président de la CPME.
Le sujet, c'est la formation. Avant la formation, il y a l'orientation. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a formé pendant des années, je dirais presque des décennies, des jeunes dans des filières qui recrutent moins que dans des filières qui recrutent.
Dans ce contexte, 65% des dirigeants ont décidé d'augmenter les salaires cette année. Mais ce geste ne suffit pas toujours. La moitié des salariés qui quittent leur entreprise veulent se consacrer à autre chose que leur vie professionnelle.
Ils veulent, entre guillemets, porter un projet personnel. Comme si, d'un seul coup, la relation au travail devenait secondaire dans les priorités de la vie. C'est un petit peu stupide.
Un phénomène complètement nouveau, note la CPME, qui réclame face à cette difficulté un système d'assurance chômage plus efficace, incitant davantage au retour à l'emploi.